BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on file sur le marché pour débuter cette deuxième heure. Frédéric Rosier nous attend chez Mirabeau. Bonjour Frédéric. Vous nous entendez Frédéric ?
Je vous entends très bien.
Merci d'être au rendez-vous. Que se dire sur ce marché qui hésite, encore une fois j'ai envie de dire ?
Oui, effectivement, il hésite parce que l'agenda est creux et on a tous en tête le cycle Banque Centrale 14-15 décembre. Donc la question est de savoir est-ce que oui ou non l'année est peut-être déjà finie. Et donc on tourne un petit peu et aujourd'hui le marché rebondit notamment sur des valeurs qui avaient été un petit peu attaquées comme Airbus ou le secteur des matières premières. Je vois notamment Total rebondir avec un léger rebond du pétrole.
Voilà donc pour le cadre dans lequel évolue notre marché. Après, il y a deux dossiers qu'on peut évoquer. De Richebourg,
effectivement, publication. Pour le coup, assez bonne publication. Le titre rebondit de plus de 10% au moment où on se parle. Chiffre d'affaires, donc on est sur un résultat annuel, chiffre d'affaires en croissance de 46%, même s'il y a un effet base avec l'intégration des corps. Mais c'est quand même au-dessus des attentes. Donc voilà, c'est une belle publication. Attention quand même, hein, on le sait, c'est une partie cyclique, notamment la partie recyclage. Et donc sur 2023, quelque part, une forme d'incertitude. Donc, mais ça reste quand même une belle publication.
Et puis Vallourec.
Et Vallourec, alors c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi le titre baisse à l'opposé de ce qui se passe notamment dans le secteur pétrolier, tout simplement parce que un actionnaire qui s'appelle Nippon Steel aurait cédé sa participation plus de 3% à 9,90, hein, donc c'est une décote relativement importante par rapport au dernier cours coté. Donc, ça explique pourquoi effectivement on a un titre qui baisse alors qu'on voit par exemple l'ensemble des secteurs pétroliers, parapétroliers augmenter aujourd'hui.
Voilà donc quelques idées à avoir en tête au sujet de ce marché. Marché qui, ce matin, se montre hésitant, même si là, on a pris un petit peu d'altitude, plus 0,2%, 6672 points. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Rosier depuis Mirabeau. Et tout de suite, c'est l'Info Éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'Info Éco, Stéphanie Collot.
Et à la une, le gouvernement prolonge les aides à destination des PME pour les aider à faire face à l'explosion des coûts de l'énergie. Jusqu'à présent, l'État prenait en charge 20% de la facture d'électricité. Ce matin sur RMC, Bruno Le Maire annonce le maintien du guichet énergie sur l'année 2023, ce qui allégera la facture à hauteur de 35%. On écoute le ministre de l'Économie.
Pour répondre à cette demande et cette inquiétude de toutes les PME qui consomment beaucoup d'électricité, il y aura donc cet amortisseur, 20%, et nous maintiendrons le guichet qui existe aujourd'hui au 1er janvier 2023. Ça représentera un allègement de la facture, cette fois jusqu'à 35%.
Je voudrais qu'on se mette un tout petit peu à la place de celui dont vous imaginiez le scénario. Il voit sa facture passer de 1 000 à 4 000 euros. À la fin, il paiera combien ?
Il va déclarer sa facture au guichet de manière très simple au 1er janvier 2023 et sa facture sera ramenée à 2 600 euros.
Ça veut dire
35%
qu'à la fin,
en moins.
Toujours à propos d'énergie, RTE temporise. Il n'y a pas de risque de coupure d'électricité d'ici la fin de l'année. Déclaration du directeur exécutif du gestionnaire de réseau. Et pour ce qui est de l'an prochain, eh bien, si tout le monde fait des efforts, rien n'est écrit d'avance. La CNIL inflige une amende de 300 000 euros à Free pour non-respect des droits des personnes et de la sécurité des données de ses utilisateurs. La sanction rendue publique ce matin a été prononcée le 30 novembre dernier. Une nouvelle licorne est née. United, fintech spécialiste du crédit à la consommation en ligne, lève 60 millions d'euros, valorisant l'entreprise plus d'un milliard d'euros. Charles Aigli, le patron de United, est l'invité ce soir de Tech & Co. Ce sera à partir de 20h10 avec François Sorel. Autre levée de fonds, Carmat a annoncé une augmentation de capital de 31 millions d'euros. Elle va lui servir à monter en puissance dans la production de ses cœurs artificiels, production qui a repris le mois dernier. Le Le rachat de l'OL joue les prolongations. Un nouveau report, le troisième, est accordé au milliardaire américain John Textor. Mais cette fois, OL Group fait état de progrès vers une finalisation. L'opération est estimée à 800 millions d'euros. À noter, parmi les rendez-vous de la journée sur l'antenne de BFM Business, émission spéciale à partir de 18h, Good Evening Business sera en direct de Lyon, en plein cœur du centre commercial The Village, où il sera question de Noël et de consommation, Cédric.
Merci Stéphanie Collot. Chaque heure avec nous pour cette actualité économique et nous tout de suite on retrouve l'œil du stratège.
BFM Business, BFM Patrimoine, l'œil du stratège.
L'œil ce matin de Stanislas de Bailliencourt. Bonjour Stanislas.
Bonjour.
Pour Sycomore AM, merci d'être avec nous en plateau. De nombreux indices, que ce soit le Dow Jones, le CAC 40, ont repris largement du terrain depuis leur plus bas de l'année. C'était il n'y a pas si longtemps pourtant, c'était en octobre. Une vingtaine de pourcents en gros. Et quand on regarde les définitions, s'il en fallait, ça nous donne un bull market. Vous l'assurez, vous l'assumez, ce passage en bull market ou pas ?
Non, pas du tout. Je pense qu'en fait, on a... alors, on peut dire que c'est un bull market, on peut aussi dire que c'est un rallye dans un marché baissier, si on veut être voir le verre à moitié vide. On avait probablement exagéré un petit peu dans la baisse en septembre-octobre. Il y avait beaucoup de positions vendeuses, notamment des fonds spéculatifs systématiques, donc qui sont des fonds quantitatifs, qui se sont corrigés. Donc ça, ils ont neutralisé une partie de ces positions en les rachetant, donc ça a participé à la hausse. On a eu de bonnes publications de résultats de la part des entreprises au troisième trimestre qui étaient globalement plutôt rassurantes, en particulier en Europe, là où il y avait plus de craintes. Mm-hmm. C'est d'ailleurs pour ça que les marchés européens ont beaucoup plus rebondi que les marchés américains. Si vous regardez le S&P, il n'a même pas retrouvé son point haut du mois d'août, ce qui est le S&P 500 aux États-Unis, ce qui est tout à fait différent du CAC 40 ou de l'Eurostoxx 50 en Europe. Et ensuite, après ces publications, on a eu mi-novembre des chiffres d'inflation aux États-Unis qui ont été un petit peu en deçà des attentes et qui ont accrédité la thèse du fait qu'on ait passé le pic de l'inflation aux États-Unis, ce qui n'est pas tout à fait le cas en Europe, et que du coup les banques centrales pourraient commencer à ralentir le rythme des hausses de taux. Et comme vous savez qu'on a un marché qui est biberonné depuis une dizaine d'années finalement à la liquidité monétaire et à l'aide des banques centrales, le fait de pouvoir envisager qu'on arrive petit à petit vers un ralentissement ou en gros une politique monétaire qui ne soit pas trop restrictive a permis de libérer sur la deuxième partie du mois de novembre une deuxième jambe de une poursuite de ce rebond assez forte.
Bref, on a des indices qui sont finalement plutôt assez appréciables au vu de l'actualité macroéconomique et on va revenir là-dessus. Et puis il y a un phénomène marquant, c'est que si les grandes valeurs fonctionnent bien, même si ce sont plus certaines grandes valeurs que toutes les grandes valeurs, il y en a, en l'occurrence, qu'on peut dire toutes, ce sont les small, les mid and small, qui, elles, sont à la cave, massacrées.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui explique qu'il y ait un tel décalage entre les grandes valeurs et les petites valeurs ?
Tout d'abord, elles sont toujours plus sensibles,
certes,
parce qu'il y a moins de liquidités.
Mais les résultats ont été bons aussi.
Les résultats ont été bons aussi. Quand il y a des craintes de récession, elles sont davantage touchées. Et ça me rappelle énormément le phénomène qu'on avait eu il y a une dizaine d'années, fin 2011, où déjà les small caps avaient été tout à fait massacrées. Elles avaient moins rebondi de 2009-2010 et elles avaient été massacrées en 2011. On est un peu dans la même situation aujourd'hui, où on a déjà peu de flux, voire des flux sortants de la part des investisseurs sur les small et mid cap. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est encore plus vrai en Europe. On a eu plutôt des retraits de capitaux en termes d'investissement. Et donc, on a eu une très forte compression des multiples de valorisation, alors qu'en face de ça, on a globalement plutôt une bonne publication sur la profitabilité. On pense aussi qu'elles seront beaucoup plus impactées, parce qu'elles sont plus locales, les small et mid-cap européennes, par la crise de l'énergie, qui est quand même très eurocentrique. Là où une grande entreprise a une partie de son activité aux États-Unis, on n'a pas du tout la même crise de l'énergie, les prix du gaz n'ont rien à voir aujourd'hui aux États-Unis ou en Europe. La globalisation de ces très grandes entreprises les protège de phénomènes locaux qui potentiellement pourraient venir en risque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on joue un petit peu, enfin notamment les médias parlent énormément des risques pour cet hiver. J'irais que le scénario médian, c'est plutôt qu'il n'y ait quasiment pas de coupure d'électricité. Après, évidemment, aucun investisseur ne maîtrise la météo entre le 1er janvier et la fin du mois de février. Donc c'est pour ça que les small caps ont été très impactés. Elles redémarrent toujours plus tard.
Mais est-ce qu'il y a aussi une question de liquidité ? Est-ce que finalement les investisseurs dans ces marchés un peu incertains, ils veulent pouvoir bouger rapidement et c'est plus simple de jouer des paniers sur les grosses valeurs
que
sur
les valeurs moins liquides, ou les investisseurs un peu rapides, ce qu'on appelle la fast money, ont tendance à bouger sur des grandes entreprises où ils peuvent rapidement rentrer et rapidement ressortir. Après, si on regarde depuis un mois et demi, c'est-à-dire depuis le début du rebond, les small et mid cap ont quand même très bien rebondi parce que les résultats ont quand même prouvé les choses. Il y a quand même des capitaux, il y a des opérations de fusion acquisition, c'est-à-dire quand c'est vraiment peu cher. Il peut y avoir des achats, il peut y avoir des retraits et vers le privé, notamment provenant de fonds de private equity qui ont levé énormément de capitaux dans les années précédentes. Et on voit une énorme distorsion de valorisation entre les small et mid cap dans les marchés cotés et sur les marchés non cotés à l'opposé. Alors évidemment, c'est complexe. C'est pas si simple de retirer le reste de la cote. Néanmoins, quand on atteint un certain différentiel de valorisation, on peut avoir un phénomène de rattrapage. Donc c'est déjà arrivé. On était dans la même situation fin 2011. Et le rebond se fait toujours avec un petit peu de retard et plus progressif. Et probablement, enfin, il y a d'abord l'aspect de la confiance des investisseurs et des retours des flux d'investissement vers les small et mid cap. Donc ça, c'est un petit peu le cas, mais c'est encore très faible aujourd'hui. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faudra avoir quand même stabilisé la situation sur la problématique énergétique en Europe, ou au moins donner une visibilité assez forte pour les années à venir, pour qu'on se dise, OK, le setup aujourd'hui pour les sociétés de services et encore plus pour les sociétés industrielles européennes de petite ou de moyenne taille, il est suffisamment robuste et crédible pour les années à venir pour qu'on puisse redéployer des investissements dessus. Et ça, ça va nécessairement prendre plusieurs mois.
Il y a des thèmes macro aussi qui dominent notre actualité financière et les questions d'inflation, de banque centrale sont au cœur des préoccupations de marché. On sait que la semaine prochaine, on a et la Fed et la Banque Centrale Européenne, donc ça va être très intéressant d'essayer de se pencher là-dessus. Commençons d'abord peut-être par la Fed qui avait dégainé la première, qui est plus en avance et qui commence à réfléchir à la suite. Est-ce que vous pensez que les chiffres de l'emploi de novembre, qui sont tombés vendredi dernier, sont de nature à plomber un peu les volontés de la Fed ou pas?
Je pense qu'en fait, la Fed, aujourd'hui, est de plus en plus rassurée sur la capacité de l'inflation, notamment provenant des matières premières, etc., à se courber naturellement dans les mois à venir. Et c'est ce que nous disent les courbes d'anticipation d'inflation, etc. Et donc, le deuxième sujet de la Fed aujourd'hui, qui était une grosse source d'inflation aux États-Unis, c'est globalement la pénurie de main-d'œuvre et la très forte inflation salariale des dernières années. Là-dessus, les chiffres récents sont assez hétérogènes. Globalement, on sent que ça ralentit. On a aussi des effets d'annonce dans les méga-caps de la tech qui commencent aussi à couper un petit peu ou à moins recruter. Et donc, ça, je pense que le premier trimestre 2023 sera encore plus marqué dans ce sens-là. Mais ce n'est pas encore massif. Il y a encore des pénuries dans certains secteurs, dans certains domaines, dans certaines régions. Donc, sur l'emploi, c'est quand même, on est en train de faire pivoter un super tanker. Donc, ça prend un peu de temps. Il y a de l'inertie. Ça ne bouge pas partout pareil dans toutes les régions et tous les secteurs, etc. Donc, ça ne donne pas finalement ni un blanc-seing à la Fed pour dire voilà, il faut continuer à resserrer très fort parce qu'on a encore un sujet de pénurie d'emploi, les entreprises recrutent trop ou sont obligées de payer trop cher. Et inversement, on n'est pas non plus dans une situation où tout est en train de se régler. Voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais le fait que la première partie du volet sur l'inflation et notamment les questions de matières premières, etc., se tasse un petit peu, finalement donne un peu plus de marge de manœuvre et de temps à la Fed pour laisser la partie salariale de l'inflation se résorber plus naturellement d'elle-même au cours des mois à venir.
Et pour la BCE, c'est même raisonnement, enfin, j'ai envie de dire, ou la situation est...
Non, la BCE, c'est plus compliqué.
Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué?
Alors, c'est plus compliqué parce que déjà...
Elle est en retard?
Elle est en retard. Deux, elle a un risque de ralentissement économique plus fort et par ailleurs plus exogène, en fonction de la météo, etc. Donc, par définition, une chose qu'elle ne maîtrise pas. Elle a un impact social où finalement l'inflation aux États-Unis, ils sont un peu plus habitués à avoir une économie volatile. C'est moins le cas en Europe et on voit que socialement, cela crée une souffrance. Et donc, une pression politique forte sur la BCE de la part à la fois des gouvernants et des populations. Et donc, de ce point de vue-là, elle est obligée de régler le problème d'inflation, mais qui finalement est assez peu, enfin, n'est pas qu'un problème monétaire, qui est aussi un problème de prix d'approvisionnement, de coût des matières premières, etc., qui est en train de se mettre dans le système. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que ça se transmet partout, y compris dans les services, et bien sûr dans l'inflation cœur, qui est très élevée. Donc ça, c'est la première partie du problème. Et la deuxième partie en face, c'est le ralentissement. Et pour la première fois, on arrive dans une situation de ralentissement avec une banque centrale qui va continuer à resserrer. Et donc, elle va être obligée la semaine prochaine d'avoir un discours quand même relativement agressif pour regagner de la crédibilité dans sa capacité à juguler les problèmes monétaires. Probablement, le thème du quantitative easing sera largement évoqué. Et c'est vrai qu'il a commencé depuis quelques mois aux États-Unis avec 95 milliards de dollars de retrait par mois. La BCE va être obligée d'en parler, notamment parce que la courbe des taux s'est inversée, ce qui ne lui plaît pas forcément. Je pense qu'il voudrait une courbe légèrement plus pontifiée. Donc ce thème va revenir et probablement va créer de la volatilité après la conférence de presse de la BCE la semaine prochaine. Donc elle est un peu en train de marcher sur les deux côtés où le ralentissement arrive. Il y a un gros inconnu, la problématique énergétique et la météo. Et donc c'est un chemin qui est assez difficile pour la BCE.
Ça veut dire que finalement tout va encore dépendre de cette inflation ? De ce chiffre d'inflation, vous anticipez quoi ? Comment vous voyez les choses évoluer ? À quel rythme vous pensez qu'elle peut refluer ? Et si ce rythme n'est pas au rendez-vous, qu'est-ce qui se passe ?
On va probablement avoir un schéma différent de celui des États-Unis. Déjà parce qu'il y a énormément de phénomènes d'amortisseurs en Europe. Juste avant qu'on commence intervention, on voyait Bruno Le Maire qui ce matin remettait pour les PME des mesures en place. Nous tous, en tant que consommateurs en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays d'Europe, mais on ressent moins, en tout cas pour le moment, sur l'électricité par exemple.
Oui, non, mais les chiffres le disent, on a 6% d'inflation, là voilà. Il y en a 12 en Europe. Quoi.
On n'a pas de recette magique, on délaye une partie. Donc mécaniquement, ça va quand même arriver et impacter simplement plus tard. Donc on fait plutôt un phénomène de lissage pour que les gens s'habituent, pour que des hausses de salaire puissent se faire entre-temps, et que du coup ça soit moins violent en perte de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Donc c'est une manière de rendre le choc moins brutal. Néanmoins, le choc sous-jacent, il est quand même là, et il devra s'inquiéter. Donc les chiffres d'inflation auront moins un phénomène de reflux, en tout cas beaucoup moins rapide, qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et par ailleurs, comme elle s'est transmise dans les services, donc dans les activités qui ne sont pas directement liées au prix des matières premières, aujourd'hui, on a une inflation beaucoup plus large dans la zone euro. Donc je pense que, certes, le recul des prix du pétrole, etc., est un élément plus positif. Le fort recul des prix du fret pour tout ce qui est importé, des pays notamment d'Asie, est un autre point positif. Par contre, on a à l'opposé, une inflation qui est tellement à base large aujourd'hui et qui s'est tellement répandue dans l'économie qu'elle va mettre plus de temps que ça à redescendre.
Voilà donc pour ces questions d'inflation. Il y a aussi une autre problématique qui intéresse ou qui interpellait beaucoup les marchés, c'était la Chine, avec cette politique zéro Covid qui bloquait un petit peu toutes les choses, les voyages, les ouvertures d'usines, enfin bref. Et là, on a l'impression que voilà, on a pris le pli et qu'on va pouvoir se confiner chez soi.
On pourrait parler de retournement un peu subi de la part du gouvernement, sous la pression populaire, enfin c'est ce qu'on comprend vu d'ici, parce que ça soit aussi bien pour le Covid ou pour les chiffres de croissance économique en Chine, on n'en a qu'une lecture forcément biaisée, un peu biaisée, ouais. Et imparfaite, en tout cas beaucoup moins transparente que la situation aux États-Unis ou en Europe qui donne beaucoup plus, enfin il y a une transparence de l'information qui est beaucoup plus forte. Néanmoins, ce qu'on peut comprendre, c'est que un peu devant le fait accompli des expositions des cas et dans l'incapacité ou finalement le ras-le-bol des populations sur la politique qui est en place depuis 2 ans et demi maintenant, il y a une sorte d'ouverture de fait. Après, il va falloir voir dans les semaines et les mois à venir comment ça se gère d'un point de vue sanitaire, parce qu'il faut les infrastructures, la capacité à soigner, etc., qui va en face de cette nouvelle politique. Et là, on commence tout juste à entrer dedans. Donc, on va voir les À court terme, c'est évidemment plutôt positif pour l'économie, parce qu'il faut aussi voir que toutes les nouvelles d'un point de vue économique pointent quand même vers un ralentissement assez significatif en Chine, avec toujours en toile de fond cette problématique du secteur de l'immobilier, avec des faillites en série, etc., et un fort problème de financement dans cette partie-là. Donc, il y a aussi une nécessité économique à tourner la page du Covid et à renormaliser la situation, à la fois pour la production, et donc la capacité à exporter, et aussi pour la consommation.
Voilà donc pour les grands thèmes qui font bouger les marchés. Du coup, vous voyez quoi pour cette fin d'année ? Est-ce qu'il y a encore un rallye possible, ou est-ce que c'est celui qu'on a évoqué en début de propos ? Il faut rester inchangé, il faut faire un petit peu d'habillage. Alors, enfin,
on a déjà eu quand même, depuis un mois et demi, une très forte revalorisation qui s'est faite sur les marchés.
Donc le rallye a déjà eu lieu.
Donc globalement, on a intégré une grosse partie des bonnes nouvelles et de la santé actuelle des entreprises. On va dire que le scénario un petit peu central, consensuel de marché, c'est plutôt pour une récession faible sur l'année 2023, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et d'ailleurs, quand on regarde les niveaux de valorisation aux États-Unis aujourd'hui, ils sont encore relativement élevés, avec des attentes de résultats pour les entreprises qui sont assez élevées. Donc, on ne voit pas tellement comment on pourrait avoir un scénario s'améliorant sur cette partie-là et donc engendrer une patte de hausse supplémentaire. En Europe, la situation est un petit peu différente. Il y a encore dans le marché, notamment les entreprises cycliques, si on regarde le secteur bancaire, le secteur automobile, etc., qui jouissent de valorisations très faibles parce qu'on estime que leur profitabilité actuelle ne sera pas tenable, notamment avec une entrée en récession. Et peut-être qu'ils ont leur épingle à tirer dans un contexte qui pourrait être moins adverse que prévu l'année prochaine, à plus de résilience économique, des valorisations très basses et donc un fort potentiel de hausse. Après, à court terme, vous l'avez dit tout à l'heure, la grosse semaine, c'est la semaine prochaine, toute la partie inflation et banque centrale avec un certain nombre de news flow qui va redonner un petit peu la toile pour l'entrée en 2023. On a vu récemment une forte baisse des taux, une inversion des courbes en Europe comme aux États-Unis, etc. On peut avoir un petit peu de volatilité, notamment en Europe, après les annonces de la BCE et le fort rebond des marchés actions. Donc on a probablement déjà encaissé une grosse partie de cette hausse. Et la prochaine étape qui donnera de la visibilité pour nous, c'est à partir de la deuxième quinzaine du mois de janvier, les résultats annuels des entreprises et surtout les guidance qui seront donnés pour 2023 et comment elles vont anticiper cette année qui est assez peu lisible.
Ça veut dire que son portefeuille, il faut le garder tel quel. Enfin, je veux dire, faut pas refaire de grands balancements pendant la trêve des confiseurs. On reste comme ça et puis on attend de voir un petit peu justement ce que nous diront les publications de résultats.
Alors, les publications de résultats, de toute façon, quand on investit dans les entreprises, ça reste le nerf de la guerre, avec en face l'environnement à la fois économique et monétaire qui jugule tout ça. Sur l'environnement monétaire, ce qu'on comprend, c'est que les banques centrales, aujourd'hui, on a eu quelques nouvelles positives depuis un mois et demi sur l'inflation, donc ça a plutôt joué favorablement pour les marchés, mais peut-être trop, enfin les marchés ont été peut-être trop optimistes sur cet aspect-là. Et entre-temps, sur l'aspect micro, on va avoir très peu de news flow pendant le mois à venir, au moins jusqu'au 15 ou au 20 janvier. Donc il y aura peu de ce côté-là, à la fois de nouvelles positives ou négatives provenant des marchés. C'est surtout l'environnement monétaire et l'environnement économique qui vont driver la tendance.
Juste une petite question ou deux accessoires. Les cryptos et leur crise, et cette nouvelle crise, on va dire, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Est-ce que ça vous amuse? Est-ce que ça vous indiffère? Est-ce que ça vous inquiète? Voilà, tout ce qui tourne autour de FTX.
Alors, la première chose, c'est que ça ne nous impacte pas. C'est absolument pas systémique, ça reste un épiphénomène, etc.
Bon, ça, c'est le côté rassurant.
C'est le côté rassurant, et on voit quand même que on parle vraiment de deux choses différentes et que ça n'a rien à voir avec le pan économique classique. La deuxième chose, non, ça nous indiffère pas parce que on est toujours curieux de comprendre ce qui se passe dans notre environnement. En revanche, ça montre quand même la fragilité et que certaines croyances, enfin les croyances de certains qui pouvaient être dures comme fer sur le fait que ça allait remplacer, etc., on sent quand même bien que le niveau de maturité, le niveau de solidité, le niveau de robustesse, on n'est clairement pas aujourd'hui dans un système alternatif. Et du coup, je pense que ça ouvre aussi le sujet des monnaies, des devises virtuelles ou des devises plus digitalisées pour les banques centrales, de dire voilà, il y a peut-être un besoin, il y a peut-être quelque chose à développer, mais de manière beaucoup plus robuste et qualitative que ce qui est offert jusqu'à aujourd'hui.
Merci beaucoup Stanislas de Bailliencourt, donc Sycomore AM qui nous accompagnait ce matin dans l'œil du stratège pour mieux comprendre tout ce qui sous-tend la tendance en tout cas très hésitante puisque le CAC 40 ne sait pas très bien à quel sein se vouer, plus 0,09% 6666 points. Ça ferait plaisir à Antoine Larigauderie. En tout cas, c'est Jean-Louis Cussac qui va nous dire ce qu'il faut penser de ce seuil dans un instant.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Allez, on file sur le marché pour entamer cette dernière demi-heure. C'est Jean-Louis Cussac qui, depuis ses bureaux bordelais de Perceval Finance Conseil, est à nos côtés ce matin pour lire cette tendance, ou plutôt cette simili-tendance. Jean-Louis, je vais pas le dire vulgairement, mais on s'ennuie.
Sur place.
Quoi.
Là, on fait du sur place, mais alors c'est vrai que c'est pas passionnant, mais Ben, encore une fois, je le répète, mais les achats systématiques sur des replis. Tout à l'heure, j'ai fait quelque chose comme 60 et quelques, 60, 78, voilà. Et puis on continue. Là, je me suis replacé à 61, je suis replacé un petit peu un cran en dessous à 41. Des fois que il y a des écarts. Hier, parfois, on a vu tout d'un coup le marché qui perdait 20 à 25 points et qui repartait. On sait même pas pourquoi. Donc là, c'est vrai que c'est hyper calme. Le marché vraiment évolue entre les mêmes limites depuis une heure. Il s'est rien passé. Depuis une heure, là, on n'a pas une variation sur les actions du CAC 40 supérieure à 0,8, on va dire. Vous voyez, donc elles sont toutes sur les reprises en une heure. C'est Eurofin plus 0,8 et puis moins 0,7 pour Sanofi. Mais pour le reste, c'est super calme. 550 millions, Cédric. 550. On a souvent 600, 700 à 10h30. Donc, vous voyez, on est très, très calme. Mais toujours pareil, on reste perché sur des plus hauts, la tendance haussière n'est pas affirmée. La volatilité implicite, je regardais, c'est intéressant, elle est très haute, enfin très haute, elle est plus haute à un an qu'à trois mois, légèrement. Ça veut dire qu'on est toujours dans cette hyper méfiance, même sur le long terme. Pour le reste, je vous disais, tant qu'on est au-dessus de 6600, 60, allez, 40 même, aucun problème, le marché conserve un maximum de chances de rebondir dans la journée. On a toujours des attentes optimistes. On attend évidemment des discours de la Fed, la semaine prochaine, Banque Centrale, et même toutes les réflexions qui pourront être amenées à perturber les marchés. Beaucoup parlent de risque asymétrique, c'est-à-dire que comme les marchés ont anticipé de très bonnes choses, on a un risque d'être déçu, certes, mais ce risque asymétrique, il est vraiment compensé par la construction de la hausse des marchés. Et encore une fois, cette construction de la hausse s'est faite dans la méfiance, avec beaucoup d'acteurs qui n'y ont pas participé, avec donc beaucoup d'achats potentiels sur des replis. Alors on peut avoir une réaction épidémique, à chaque fois un trait temporaire, mais avec un contre-pied derrière potentiellement important, parce que il y a encore beaucoup de monde qui soit peut se racheter des positions vendeuses à découvert, il y a pas mal de vendeurs, et d'acteurs aussi qui en profiteraient pour entrer dans ce marché. Donc vraiment la porte est ouverte à tous les mouvements, même si évidemment, dans une perspective long terme, on peut considérer qu'on est un peu topiche, que le marché quand même, quel serait le catalyseur qui pourrait amener le marché à progresser davantage? C'est pas simple, que ce soit sur une date peut-être plus précise du pic d'inflation ou un arrêt de la guerre en Ukraine, évidemment, ça pourrait éclaircir, mais pour l'instant, la situation reste vraiment avec une visibilité extrêmement faible.
Merci beaucoup Jean-Louis. Jean-Louis Cussac, donc Perceval Finance Conseil ce matin avec nous. Le marché parisien donc très très hésitant, plus 0,08% pour le CAC à 6664 points. Du côté des devises, l'euro dollar est à 1,0495.
BFM Business, BFM Patrimoine, sur le green.
Sur le Green qui accueille ce matin Anne-Catherine Husson-Traoré, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour Novetic. Alors la COP 15 a démarré hier à Montréal, on s'y perd un peu dans toutes ces COP. De quoi il s'agit avec cette COP 15?
Eh ben oui, parce que vous avez en tête la COP 27.
Eh oui.
Eh ben oui, mais la COP 27...
Donc là on le fait pas à rebours là.
Voilà, la COP 27 c'était le climat et c'était en Égypte. Alors pourquoi ça s'appelle pareil? Parce qu'en fait c'est des processus onusiens, c'est-à-dire qu'on rassemble tous les pays du monde pour discuter pour les COP où on en est à 27, c'est le climat. Et pour les COP où on en est à 15, c'est la biodiversité.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est encore plus compliqué que le climat, puisque vous savez que la COP 15 sur le climat la COP 21 sur le climat en 2015 a accouché de l'accord de Paris. Et donc là, l'ambition de cette COP 15 qui se tient à Montréal, qui devait initialement se tenir en Chine, mais la politique zéro Covid a fait que ça a été finalement à Montréal. C'est l'objectif d'essayer de trouver un cadre commun à toute la planète et à tous les membres.
Donc de faire les accords de Montréal.
Pour faire les accords de Montréal, tout à fait. Et se donner des caps pour préserver et restaurer la biodiversité, puisqu'on a quand même franchi 6 des 9 limites planétaires dans lesquelles il faut rester pour que la vie humaine se poursuive pas trop mal.
Ça veut dire que cette biodiversité, il va falloir la prendre de plus en plus en compte, son respect, etc. Et pour ce qui nous concerne, dans BFM Patrimoine, ça veut dire intégrer cette biodiversité dans nos investissements, dans nos politiques d'investissement, c'est ça ?
Oui, alors je vois
comment
bien. Eh bien, ça paraît un peu étrange, puisque vous avez compris de ce dont on parle. C'est de la disparition des espèces, c'est de la dégradation des écosystèmes. Et effectivement, on est dans BFM Patrimoine. Il y a en fait, il y a un mouvement qui a démarré plus tard, mais qui est assez parallèle à celui qui existe de la finance sur le climat, qui a démarré en gros essentiellement en septembre 2021, donc avec une grande déclaration consignée à ce jour 111 investisseurs, mais ces 111 investisseurs, ils pèsent 16 300 milliards de dollars. Donc on parle de très gros investisseurs.
Ça fait pas mal.
Et en fait, ils s'engagent de la même façon qu'on l'a fait sur le climat, c'est-à-dire à intégrer dans leur choix de politique d'investissement responsable, dans ces fameux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, la question de la biodiversité.
Donc il va falloir rajouter une lettre, quoi. Ça va être ESGB.
Alors, non, en fait, ce qui est important, c'est surtout d'essayer de comprendre, parce qu'effectivement, non pas les chiffres qui viennent d'être évoqués, mais de comprendre pour les entreprises dans lesquelles on investit ou dans lesquelles est investi dans un portefeuille, à la fois quel est l'impact de l'activité de cette entreprise en termes de destruction de biodiversité ou les impacts négatifs, mais aussi sa dépendance à la biodiversité. Parce qu'en gros, on sait qu'aujourd'hui, l'économie mondiale telle qu'elle est, elle dépend à 55% de l'état de la biodiversité. Alors c'est évident pour l'industrie agroalimentaire, évidemment, mais il y a d'autres cas où, selon les matières dont on a besoin, toutes les industries qui ont besoin de beaucoup d'eau, par exemple, la qualité de l'eau, la disponibilité de l'eau, sont des éléments de biodiversité. Donc c'est vrai que ça paraît un sujet macro et scientifique, alors qu'en fait, ça a des impacts très concrets sur les activités des entreprises. Et si les financiers intègrent cette dimension, on a l'objectif, comme sur le climat, de réorienter les flux. Donc, vous savez que sur le climat, la question, c'est est-ce qu'on doit investir ou non dans les énergies fossiles pour protéger le climat. Et bien là, on va arriver assez vite à des matrices d'analyse qui vont se dire je limite mes investissements, je fais énormément d'engagement actionnarial sur l'entreprise qui a le plus d'impact négatif sur la biodiversité et je réoriente mes flux ou je fais pression sur elle pour que sa stratégie, son activité change et limite les dégâts, on va dire.
Vous nous avez parlé de ces investisseurs qui ont mis en place une politique biodiversité. Qui sont-ils ?
Alors, c'est effectivement et assez logiquement les acteurs historiques de l'investissement responsable comme la Caisse des dépôts ou AXA. En termes de gestion d'actifs, on a la Banque Postale Asset Management qui a justement choisi l'ouverture de cette COP15 à Montréal qui était hier pour lancer sa politique de biodiversité. Et ce qui est intéressant, c'est que elle s'est mise dans la convention cadre qui est en discussion à Montréal, c'est-à-dire qu'il y a 21 thèmes qui paraissent assez logiquement, la pollution de l'air, la surconsommation, l'usage des plastiques, enfin tout ce qui détruit la biodiversité. Elle en a choisi 16 qu'elle a intégrées dans son analyse des entreprises qu'elle sélectionne et elle fonctionne un peu de la même façon que sur le climat avec cette évaluation de la dépendance à la nature et des impacts négatifs des entreprises et l'exclusion des entreprises qui vraiment abîment vraiment la nature. Et ça, elle le fait avec ce qu'on appelle le Global Biodiversity Score, qui est une espèce d'indicateur qu'on est en train de construire pour avoir une idée des entreprises. Alors, celles qui ont le pire, elles sont sorties des investissements possibles de la Banque Postale.
Bon. On le sait, en termes de finances responsables, d'ESG, etc., il y a des noms, il y a des labels, il y a des grands accords. On voit que ça se met en place aussi sur cette biodiversité. Quand on est épargnant, on voit ces thématiques ruisseler, mais on se pose toujours la question, est-ce que ça marche ?
Alors oui, effectivement, d'abord, tout ce que vous venez de dire est vrai, et donc il y a en fait une espèce de grande confusion, et c'est encore plus difficile, j'allais dire, pour l'épargnant, de se repérer dans ce qui est vraiment vert, ou ce qui est vraiment et sur la biodiversité.
Ça a un impact, toutes ces démarches ?
Oui, bien sûr, ça a un impact, et un des moyens de le flécher, et c'est là où c'est intéressant, dans la cohérente jusqu'au bout, la Banque Postale a aussi lancé dans la foulée un fonds biodiversité. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, on se dit, ok, d'accord, mais de quoi on parle ? Eh bien, ce qui est intéressant dans ce fonds, qui s'appelle donc Fonds de biodiversité, c'est qu'en fait, il cible 4 secteurs. C'est-à-dire l'agriculture et l'alimentation soutenable, ça veut dire de l'agriculture régénératrice, la production alimentaire durable, la reforestation, etc. De l'économie circulaire, donc ça, on connaît hein, les systèmes de collecte, de recyclage. Enfin, on connaît la théorie parce que la pratique tarde à se développer. Il y a aussi des services et des solutions environnementaux et puis des bâtiments verts. Donc, l'intérêt de ce genre de produit pour un épargnant, c'est que c'est assez clair, c'est très concret, et que ça lui permet aussi, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, de comprendre que cette économie-là, c'est l'économie résiliente. C'est-à-dire qu'on n'est pas aujourd'hui... Alors, tout le monde n'est plus vert que vert, il y a des vrais sujets de greenwashing, mais si on a confiance dans l'approche que développe le gérant d'actifs auquel on s'adresse, c'est intéressant d'aller voir ce que ça donne dans la composition du portefeuille. Et quand on est sérieux, on voit bien que la composition du portefeuille, elle est différente des grandes valeurs traditionnelles, pour une raison assez évidente, c'est que ces grandes valeurs traditionnelles ne sont pas très vertes à l'heure actuelle. Et donc, c'est là où, en termes, si on veut rechercher de l'innovation, si on veut rechercher les entreprises qui vont être très performante demain, c'est une bonne grille de lecture. Parce qu'en fait, et j'évoquais les limites planétaires et l'ensemble des écosystèmes et la dégradation des espèces, on voit bien qu'aujourd'hui, on parle de risques concrets. Et que les entreprises qui adressent ces risques concrets sont évidemment les entreprises profitables de demain, d'après-demain, mais j'allais dire vraiment de demain. Et donc, cette approche-là, elle a des impacts et surtout, elle permet de repérer aux gérants d'actifs qui l'ont, à la fois leurs risques de trop grande dépendance à des choses qui sont en train de s'effondrer, et les opportunités que constituent les entreprises qui sont en train d'inventer des solutions et de les développer, évidemment.
Merci beaucoup, Anne-Catherine.
Merci à vous.
Anne-Catherine Husson-Traoré, donc pour Novetic, au cœur de Sur le Green, cette semaine. À très bientôt. Le marché parisien, lui, toujours assez hésitant, plus 0,07, 6664 points pour l'indice CAC 40.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et on répond à toutes vos questions avec Jean-François Filiatre. Prêt, Jean-François ?
On va essayer.
Le directeur éditorial de Marché Gagnant. J'espère que vous allez réussir. Question de Betty. Elle a 73 ans, nous précise-t-elle, et elle voudrait comprendre les questions de transmission. Et du coup, elle nous pose un cas concret. Si mon fils achète une maison et que je lui donne 100 000 euros plus 31 285 euros en décembre 2022, et si par la suite je meurs en 2023, est-ce que le don de 131 850 euros sera remis dans la succession ?
Alors,
déjà, je fais un petit commentaire sur les chiffres.
Allez-y.
Il y a des mélanges, ou il y a des additions qui sont pas parfaites, et il y a des seuils qui sont un peu faux. Notamment les 31 000 balles.
Alors, les 31, en fait, c'est 31 865. Voilà. Ces chiffres sont fous, mais enfin bon.
On s'en fiche, c'est le principe.
Il nous arrive de temps en temps.
Non, mais je voudrais pas enduire les auditeurs d'erreur.
Justement, c'est pour ça. Derrière les chiffres, on va essayer de dire deux choses. Premièrement, elle, dans la deuxième partie de sa question, elle globalise la somme. Puisqu'elle dit 31 850, en fait c'est 31 865, mais ça c'est pas grave. Donc dans la deuxième partie, elle globalise
l'addition des deux.
Alors que dans la première partie, elle distingue 100 000 d'un côté et les 31 000 et des poussières de l'autre. Donc le premier élément qu'il faut avoir en tête, et on va mettre des mots derrière les chiffres, c'est que le 100 000, ça correspond à une donation que je vais qualifier ordinaire.
Ouais, c'est le régime général.
C'est le régime général. Enfin, c'est le régime. Je veux dire, c'est une donation ordinaire. Et le 100 000, c'est un abattement qui s'applique en cas de donation et ou de succession. Le 31 285, qui doit être en réalité 31 865, c'est ce que l'on appelait auparavant une donation Sarkozy, qu'on appelle maintenant une donation de somme d'argent familiale. Là, c'est quelque chose et c'est un abattement qui n'existe qu'en cas de donation. En cas de donation et avec des conditions, il faut que ce soit de l'argent qui ait été donné en argent. Donc, il n'est pas question que vous donniez des titres, un immeuble ou quoi qu'est-ce. Il faut que lorsque vous le donniez, vous ayez moins de 80 ans et il faut que celui qui reçoit l'enfant qu'il reçoit soit majeur.
Et donc, ça peut être soit des pièces, soit des billets, soit un chèque, soit un virement.
Voilà. Mais, en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, et je vais prendre la logique des silos, c'est qu'en réalité, d'un point de vue réglementaire, nous sommes dans deux silos différents. Le silo de la donation ordinaire, avec un abattement qui s'applique en cas de donation ou en cas de succession, et le silo du don d'espèces, qui, lui, a un abattement de 31 865. oui, exclusivement en cas de donation.
Oui, mais ces deux silos, ils se régénèrent quand même tous les 15 ans, donc c'est peut-être de là que vient le...
Alors, ces deux silos se régénèrent tous les 15 ans. En pratique, regardons donc ce qui va se passer dans l'hypothèse qu'évoque Betty, c'est-à-dire elle décède en 2023.
Et d'ailleurs, pas qu'en 2023, dans les 15 ans qui suivent.
Et on va dire dans les 15 ans qui suivent, mais puisqu'elle pose la question en 2023, on va regarder cette situation-là. On va donc ouvrir sa succession. Donc on va regarder les actifs qui doivent rentrer dans sa succession, on va regarder le partage successoral en fonction de conjoint, pas conjoint, etc.
Enfant, pas enfant.
Et on va définir les parts, on va définir les parts des uns et des autres. Une fois qu'on va avoir défini cette masse que l'on va avoir à partager dans la succession, on va faire ce que l'on appelle le rapport fiscal des donations passées. Donc on va regarder à cette somme-là, on va rajouter les donations qui ont été faites au cours des années passées. Et là, on va tomber sur le 100 000 qui a été fait en donation ordinaire, puisque je suis en train de regarder mon seul silo, et je vous ai dit que le 31 865, je le mettais dans un autre silo. Donc, je regarde mon truc et je vois que j'ai fait une donation de 100 000 auparavant. Donc, en pratique, lorsque j'ai fait cette donation-là, j'ai exploité l'abattement de 100 000. Donc, eh bien, quand je vais regarder mon silo, je vais dire, dans mon silo, l'abattement de 100 000, il a déjà été utilisé. Donc je vais taxer la succession, ce qui est dans l'actif successoral, au profit du gamin, bah, sans prendre en compte l'abattement, puisqu'il a déjà été utilisé.
D'accord.
Donc, est-ce que le don sera remis dans la succession? On peut le prendre dans le sens où oui, c'est remis dans la succession. Je peux vous dire, non, l'abattement, vous ne le réutiliserez pas. Vous pouvez le voir d'une façon ou d'une autre. En pratique, quand on donne quelque chose...
Mais elle n'aura pas redroit à 200 000 au prétexte qu'elle est morte.
Elle n'aura pas le droit. Elle n'aura pas le droit. L'abattement n'aura pas été régénéré puisqu'on n'aura pas dépassé le stade des caisses.
Et pour les 31 000?
Et pour les 31 000, c'est un autre monde. C'est un autre silo.
D'accord. Bon, ben voilà, Betty, la réponse toute précise. Question de Toufik, faut-il faire des arbitrages boursiers en fin d'année? Enfin, deux fins d'année. Oui, alors, c'est pas la même chose. Est-ce que là, c'est le moment?
Alors, c'est le moment. Alors ça, je vais vous dire, j'en ai strictement rien à faire. Plusieurs remarques par rapport à ça. Pas les mêmes réponses. Enfin, il y a des réponses qui sont communes, mais on va raisonner par enveloppe fiscale. Donc, première enveloppe fiscale, je suis sur un compte-titre ordinaire. Donc, j'ai une caractéristique sur un compte-titre ordinaire, c'est que chaque fois que je fais une cession, je déclenche une opération fiscale. C'est-à-dire que je vais
tourner le compteur.
Je fais tourner le compteur des plus-values, à ne pas confondre, parce que nous n'avons plus 20 ans, à ce qu'on disait à l'époque, je fais tourner le compteur des cessions, puisque le compteur des cessions avait une incidence pour savoir si on était taxé ou pas. Là, on est toujours taxé. Donc, en pratique, qu'est-ce qui se passe? Imaginons quelqu'un qui a un portefeuille boursier sur lequel il a vendu en début d'année des titres et il avait fait une forte plus-value, et globalement, l'année a quand même pas été tip-top, donc il va se retrouver taxé sur cette plus-value. Peut-être qu'il va avoir un intérêt fiscal à sortir un certain nombre de titres du portefeuille, puisque je rappelle qu'en matière fiscale, d'un point de vue boursier, les moins-values s'imputent sur les plus-values. Donc si j'ai, par exemple...
S'il a gagné 100 au début d'année...
Si j'ai vendu en gagnant 100 en début d'année, j'ai plutôt intérêt, si j'ai des moins-values latentes en portefeuille, à vendre pour éviter mon imposition. Alors, ça ne veut pas dire que j'éviterai... Parce que si je vends des titres et que je les rachète, j'aurai une base de taxation à venir qui sera plus importante. Mais en tout cas, à court terme, j'aurai limité mon imposition. Donc, quand on est dans une logique de compte-titre ordinaire, la première des préoccupations et la première question que l'on doit se poser sur la logique de l'arbitrage, c'est la problématique fiscale avec la compensation des plus ou moins values. On peut aussi se dire, tiens, j'ai des boîtes qui sont pourries, je vais les sortir et je vais enregistrer un compteur de... Je vais faire tourner mes moins values et je pourrai les reporter pendant 10 ans. Donc, le compte-titre, la problématique, elle est fiscale.
Oui, parce qu'on rappelle que les plus-values, elles roulent.
Les moins-values.
Les moins-values.
Les plus-values, elles sont taxées tout de suite, mais les moins-values, elles roulent, on peut les reporter sur 10 ans. Donc, compte-titre, première question, problématique fiscale. Sujet technique. En revanche, vous savez que je n'aime pas les ordres à cours limité. Je dis toujours, quand on veut acheter un titre ou quand on veut vendre un titre, il faut passer un ordre bonnes affaires avec une limite un peu au-dessus ou un peu en dessous, selon les cas, qu'on soit à l'achat ou à la vente, pour optimiser sa cession. Donc, il y a une problématique technique à connaître. C'est quand est-ce qu'il faut faire ces opérations pour qu'elles soient enregistrées sur l'année fiscale en cours. Donc, le 31, c'est un samedi. Le 30, c'est un vendredi. A priori, il y a une séance entière sur Euronext. Mais ce n'est pas parce que vous vendez un titre le jour J que l'opération et le titre, il est livré le même jour. Donc, ça varie selon les intermédiaires avec 2 jours maximum. Donc, si vous devez faire des arbitrages aujourd'hui...
faut mieux les faire.
Ma recommandation, c'est vous les faites tout de suite avec des ordres à cours limité pour vous donner le temps d'être exécuté. Et si jamais... vous n'êtes pas dans cette situation-là, vous vous faites régler impérativement vos ordres le 26 ou au plus tard le 27, parce que sinon vous courez un risque de ne pas être pris en compte sur l'année fiscale 2022.
Donc il ne faut pas jouer avec les limites.
Exactement. Et donc aujourd'hui, on est le 8, et comme on est le 8, on peut se donner une quinzaine de jours pour avoir un ordre qui court pendant 15 jours. Et puis si dans 15 jours, on n'a pas réussi à être servi, ben là, éventuellement, on changera un peu notre fusil d'épaule. Donc ça, c'est la problématique compte titre. Maintenant, et c'est pour ça que j'aime le PEA, c'est que quand je fais mes opérations dans le PEA, quand j'achète un titre ou quand je vends un titre...
Il n'y a pas de compteur.
Il n'y a pas de compteur. Il n'y a pas d'incidence fiscale. Et donc, je n'ai pas cette problématique-là. Et donc là, je rentre dans une autre problématique qui est tout aussi passionnante d'un point de vue patrimonial et où on travaille moins le couteau sous la gorge et avec moins de contraintes. C'est finalement, vous savez, moi je défends la bourse en disant, vous avez Jean-Louis Cussac qui vous fait des arbitrages à longueur de journée. Moi, je fais de la bourse patrimoniale. Et presque, j'aurais tendance à dire que on pourrait quasiment n'intervenir qu'une fois par an. Donc, arrive la fin d'année, c'est le moment de faire les bilans. Juste d'ailleurs pour l'anecdote, cette année, on se rend compte que sur le portefeuille, on a fait peu d'opérations. Pourquoi ? Parce que l'an dernier, on avait eu plein d'histoires. On avait eu Iliad, qui était une OPA. On avait eu Bell, qui était une OPR. Donc, on avait eu un certain nombre de titres où on avait été contraint de bouger. Je crois que cette année, on a dû faire 2 opérations sur le portefeuille, avec notamment l'acquisition de Pernod Ricard et la sortie d'Orpea. Donc, maintenant, on se dit, on arrive au moment des fêtes de fin de l'année. Bah, c'est le moment de regarder un peu ce qui s'est passé. Et donc, nous, je pense qu'on va le faire la semaine prochaine, dans l'émission de la semaine prochaine, dans la chronique, de voir un peu les déformations de portefeuille. D'accord. Le marché, il a beaucoup bougé cette année. Nous, par exemple, c'est assez drôle. Vous avez Christian Dior, par exemple, qui est devenu notre première position. Ce n'était pas la première position du tout en début d'année. Donc, c'est le moment de re-regarder le portefeuille, de regarder le poids des actions dans son patrimoine global pour voir où on est notre niveau de risque. Donc, a priori, comme les marchés ont baissé cette année, notre niveau de risque sur les actions, il aura plutôt tendance à avoir baissé. Donc, ça justifierait qu'on en remette un peu plus. Donc, est-ce que c'est le moment de faire des arbitrages de fin d'année ? Je dis, sur le compte titre, il y a une question fiscale, il faut la résoudre. D'un point de vue plus patrimonial, ça va être le moment de faire un peu ses comptes de fin d'année pour voir où on en est et pour voir comment on équilibre son patrimoine pour l'année prochaine.
Allez, il nous reste 3 minutes pour répondre à Olivier notamment, qui s'étonne. C'était pas le 5 décembre la date limite pour l'annonce du taux du PEL ?
Alors, pardonnez-moi, mais là, je regarde mon téléphone parce que j'ai envoyé un message à Bercy tout à l'heure. Alors, c'est drôle cette histoire du PEL. Parce que quand on doit nous annoncer le taux du livret A, on se précipite. Je blague même, il m'est même arrivé de blaguer ici, pour dire qu'on n'avait même pas respecté les règles, puisqu'on avait même annoncé le taux du livret A avant le jour où on était censé le calculer. Donc en pratique, la règle, d'après le code monétaire et financier, la Banque de France doit communiquer une proposition le 5 décembre au plus tard, doit le transmettre dans les 4 jours à la Direction Générale du Trésor, qui doit faire publier le taux au journal officiel. Nous sommes le 8, ce matin, il n'y avait pas le taux au journal officiel. J'ai posé la question à la Banque de France pour savoir quel était le taux qui avait été transmis.
Silence radio.
J'ai posé la question à Bercy pour savoir si Bercy envisageait de communiquer hier. La réponse était non. Si la réponse était aujourd'hui, je n'ai pas encore eu la réponse. C'est quand même génial. Visiblement, il doit monter à 2%. ça a l'air de perturber tout le monde de l'annoncer. Alors peut-être qu'on le fera discrètement dimanche, qu'on n'en parle pas trop.
Publication dimanche au Journal officiel. Donc, allez, il vous reste une minute. Hélène, pourquoi avoir dit que la garantie du fonds en euros était moindre que celle du livret A?
Pour une raison simple, c'est que sur le livret A, alors on va évoquer deux types de risques. Le risque ordinaire et le risque exceptionnel. Sur le livret A, il n'y a pas de risque ordinaire, puisque tous les ans, ça ne peut que monter. Sur l'assurance vie, en pratique, on a cassé la garantie en capital dans les contrats, c'est-à-dire qu'on a fait une garantie qui est désormais brute, c'est-à-dire avant frais de gestion. Donc, s'il n'y a pas, on ne peut pas vous donner de rendement, l'assureur s'est assuré de prendre ses frais de gestion, donc la valeur en capital, elle peut baisser. Donc ça, c'est la première raison. Et puis après, il y a les garanties exceptionnelles, c'est-à-dire en situation de crise majeure, on va être clair. En cas de crise majeure, sur le livret A, il y a une garantie de l'État. Mm-hmm. Si on regarde en termes d'assurance vie, s'il y a la faillite d'un assureur, vous pouvez perdre tout le pognon que vous avez sur votre fonds d'euros, à l'exception de la garantie qui existe chez les assureurs de 70 000 euros. Et donc, on voit bien que garantie du livret A et garantie du fonds d'euros, ce n'est pas la même chose.
Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Filiatre et Marché Gagnant ce matin. Répondez à toutes vos questions. BFM Patrimoine at bfmbusiness.fr si vous voulez nous écrire. Et tout de suite, Sandra Gandoin pour 60 Minutes Business. Bonjour Sandra. Votre sommaire du jour.
On va parler de United qui rejoint le club des licornes avec une valorisation à 1,1 milliard d'euros. La FinTech a réussi à lever des fonds dans un contexte un peu compliqué. On parlera tout cela avec Thomas Chenel dans un instant. On parlera aussi de Bruno Le Maire qui a annoncé une aide supplémentaire, le prolongement du guichet énergie sur l'année 2023. Qu'est-ce que ça implique? On posera la question à Thomas Asportas. Et puis on parlera chimie verte avec Carbios qui connaît bien BFM Business, qui s'est attaqué, comme vous le savez, au recyclage de nos plastiques. Où en est Carbios? On posera la question à Emmanuel Ladan, son directeur général.
C'est à suivre dans un instant. 60 minutes business. Le marché parisien lui a renversé la vapeur. Il est désormais sous son niveau de clôture d'hier soir. On perd 0,16% à 6649 points. Et moi, je vous retrouve demain matin dès 10h pour BFM Patrimoine. Très bonne journée.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.